Bien, nous sommes toujours le vendredi 22 mai 2020, Yom Yerushalayim, jour grandiose, et je voudrais continuer un peu ce que nous avions dit tout à l'heure en approfondissant certains points. Nous savons qu'il y a évidemment plusieurs explications de cette guerre de Gog et Magog, qui est par essence, par définition, cachée jusqu'à la fin des temps, enfouie dans l'histoire et appartenant à Dieu. Il n'empêche que les maîtres du Sod, si je m'en réfère par exemple au livre de Daniel, si je m'en réfère au Zohar, les maîtres du Sod disent que la dernière phase de Gog et Magog, qui va réunir les forces d'Ishmaël avec les forces des Sav, des Ahu, et que aujourd'hui on pourrait dire l'Europe avec les pays arabes, les pays musulmans, pour détruire Israël, c'est-à-dire pour empêcher coûte que coûte cette jonction entre le peuple d'Israël devenu hébreu et Yud-Kevav-Ké, le Dieu maître de l'histoire, eh bien, cette dernière phase, on est en train de la vivre, n'est-ce pas, sous un aspect absolument important, pour ne pas dire incroyable, c'est l'aspect qui a été caché pendant des millénaires, et l'aspect donc de cette reconstitution du Gan Eden à Jérusalem, à partir de Jérusalem, par le code notamment 53, puisque Jérusalem va réunir les forces du Gan et de l'Éden, les forces de la pensée aux forces du cœur, les forces de Hevron, les forces de la spiritualité, et les forces de Shrem, les forces de la matérialité. Et cette jonction entre les deux va réveiller les forces d'Amalek. Et c'est pour ça que si on écoute ce matin les réseaux sociaux, si on lit ce matin certains articles complètement haineux, injurieux de la presse européenne, on s'aperçoit véritablement que nous sommes à la veille d'un événement, d'un clash incroyable. C'est que véritablement, n'est-ce pas, les forces d'Amalek qui sont enfuies dans Esav, puisque n'oublions pas que Amalek étant le petit-fils d'Esav par son père qui s'appelait Eliphaz et sa mère qui s'appelait Timna, eh bien ces forces d'Amalek actuellement sont en train de si vous voulez, de réagir, ressurgir, parce qu'elles étaient évidemment cachées, complètement cachées, dans tous les systèmes, mais en plus dans tous les peuples qui entourent Israël, et notamment dans ces populations qui non-juives, qui habitent en ce moment Eretz Israël, et qui, au niveau en tout cas de leurs dirigeants, eh bien, sont dominés par des forces de haine et par des forces tout simplement amalécites. Alors donc, nous sommes à la fin des temps de l'histoire, c'est évident. Certains commentateurs de la Torah disent que la guerre de Gog et Magog, en fait, est reliée directement à trois actes, à trois phénomènes, événements d'historicité. Le premier acte, c'était la guerre de 1948, la guerre d'indépendance d'Israël. Le deuxième acte, c'était la guerre de 67. Et le troisième acte, troisième acte, on le vit aujourd'hui avec une sorte de universalisme laïque qui fait que ce post-sionisme, qui fait que véritablement Israël perd un peu ses points de repère et semble tout simplement emporté par les vents de l'histoire des nations. Alors, il faut comprendre une chose très très importante, et là je me réfère au livre du grand maître Uri Cherki, Jérusalem de la division à l'unité, paru il y a quelques années aux éditions Ivriout, qui explique aux environs des pages 70, 80, etc., En fait, la guerre de 1948 était une guerre laïque où il y avait une séparation entre le monde laïque et le monde dit, entre guillemets, religieux, où les rabbins se sentaient peu ou pas reliés à l'État. Et donc, il y a eu, si vous voulez, une sorte de désacralisation de la vie politique. En 1967, c'est la deuxième phase de Gog et Magog, eh bien, il y a eu, au contraire, cette jonction entre les deux. C'est la naissance, si vous voulez, par, évidemment, la réunification de Jérusalem, 53e année aujourd'hui de sa réunification. Il y a, si vous voulez, une sorte de réunification des deux forces, laïque et religieuse, entre guillemets, avec le sionisme religieux, où on a essayé de donner un sens par la Torah, par la Torah de la délivrance, par le Sod, par les secrets de la Torah, à la laïcisation de Eretz Israël. Et la troisième phase, c'est la phase d'aujourd'hui, n'est-ce pas, où véritablement Israël va devenir Yeshurun. Le Rav Uri Sharkey en parle très très bien dans ce livre. Devenir Yeshurun, c'est tout simplement devenir la puissance universelle, idéale. C'est-à-dire que de Jérusalem va sortir la parole de Dieu pour le reste du monde. Mais pour cela, il faut véritablement passer par deux phases intermédiaire. La première phase intermédiaire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le post-sionisme, c'est-à-dire véritablement où on a un certain nombre d'individus ou un certain nombre de collectivités qui rejettent la Torah, qui rejettent l'État-nation d'Israël, qui rejettent la Torah d'Israël et qui veulent se fondre dans les nations avec un humanisme, un cosmopolitisme, si vous voulez, laïque, quelque part sans Dieu. Et cette partie-là, n'est-ce pas, qui en fait annonce la dernière partie qui est l'universalisme d'Israël avec son Dieu, eh bien, nous sommes arrivés là aussi à la fin de son expansion, si vous voulez, avec par exemple ce gouvernement d'union nationale qui s'est formé il y a quelques jours et qui permet véritablement, bon an, mal an, n'est-ce pas, d'arriver à cette fameuse unité qui va prendre du temps, ça va être difficile, mais en fin de compte, on va y arriver, Bezrat Hashem. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, au jour où Israël fête la réunification de sa capitale éternelle, Jérusalem, eh bien, Amalek, lui, a créé un Yom Al-Kotz, si vous voulez, sur cette ville qui veut remplacer Jérusalem et qui veut détruire l'État d'Israël et la Jérusalem réunifiée. Alors, évidemment, nous sommes là devant cette dernière phase de l'histoire, qui est la phase dernière de Gog et Magog, qui fait que, en fin de compte, les nations vont comme on l'a dit au début de cette intervention, vont se jeter sur Israël, n'est-ce pas? Et Israël va sortir, évidemment, grandi, parce que les nations vont se battre l'une contre l'autre. C'est-à-dire que Dieu va faire en sorte que, en voulant organiser cette armada contre Israël, eh bien, Esaü, l'Occident, on dirait aujourd'hui l'Europe, et l'islam, n'est-ce pas, vont se battre contre eux, au lieu de chercher à détruire Israël. Ils vont pas arriver à détruire Israël, ils vont finir par se battre entre eux, et ça va être l'apothéose pour Israël qui va sortir de cette gangrène, de ce mal absolu qui est le mal d'Amalek, et le troisième temple va sortir de cette période-là. Donc nous sommes, Bikitsour, à la veille d'événements cataclysmiques, mais à la veille d'événements absolument joyeux, heureux, plein, si vous voulez, c'est la plénitude, c'est l'harmonie avec Dieu. Dieu va se révéler à Israël et à partir d'Israël à son monde, à toute l'humanité entière, n'est-ce pas? Parce que Israël n'a de raison d'être que dans son universalité, n'est-ce pas? C'est très important de comprendre ça. Et l'universalité ne peut comprendre son Dieu qu'à travers Israël. Donc, ce qui est très important, c'est de savoir que nous sommes ici à la veille d'événements très importants. L'Iran vient encore une fois par son chef Khamenei de menacer directement Israël de destruction. Bon, il est évident que c'est eux qui risquent la destruction, bien entendu, parce qu'ils veulent, derrière Israël, ils veulent se battre contre Dieu. N'oublions pas, pour finir, que la rencontre entre les Perses de l'époque, en 1935, et Hitler, qui a eu lieu à Munich, n'est-ce pas, à une époque où Hitler disait que, aux Perses que vous ne vous appelez pas Perses, mais vous vous appelez Iran. Iran, ça veut dire quoi? Ça veut dire Arien en Perse. Donc ces Ariens-là, c'est-à-dire la continuité de la fonction hitlérienne amalécite de l'histoire, n'est-ce pas, vont chercher à aller jusqu'au bout de leur haine, de leur dynamique de destruction, et ils vont s'autodétruire. Merci beaucoup.